l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jeannine Robert de l'association France-Palestine Solidarité. Et bien sûr, elle va vous annoncer des événements qui vont se passer bientôt. Mais d'abord, Jeannine, je vous demande de nous faire un peu le point sur ce qui se passe en Palestine.
Oui, donc, bonjour. Voilà. En Palestine, mais en Israël surtout, il y a un nouveau gouvernement. Benjamin Netanyahou, à la fin du mois de mai, a voulu élargir sa majorité et il a nommé, pour avoir un peu plus. Pour avoir 6 voix de plus et avoir donc la majorité au Parlement, il a nommé, il a renvoyé le général Moshe Yaalon et il a nommé, qui était un militaire et plutôt un faucon, mais et il a nommé à sa place quelqu'un qui avait déjà été au gouvernement en 2012. Qui s'appelle Avigdor Lieberman.
Ah oui, en effet.
Voilà, a été chassé du gouvernement parce que pour des affaires de corruption. Alors, Avigdor Lieberman représente déjà le gouvernement tel qu'il était comporté, beaucoup étaient à droite, avec il n'y avait pas les travaillistes qui participaient. Et là, il va être encore plus à droite et même à l'extrême droite, car Lieberman est le président d'un parti qui s'appelle Notre Maison Israël et qui est un parti extrémiste de droite composé de où il y a beaucoup des immigrés russes qui en font partie. Lui-même est né en Moldavie. C'est quelqu'un qui en Moldavie était videur dans une boîte de nuit, qui a émigré en Israël et qui est extrêmement violent, extrêmement raciste, qui a des positions très, très brutales, qui dans les années 2000, il parlait de bombarder le barrage d'Assouan parce que les Égyptiens soutenaient les Palestiniens, enfin, relativement. Donc, il appelle à beaucoup de violence contre les Palestiniens. Donc, c'est ce personnage
Qui vient de rentrer au gouvernement.
Qui vient de rentrer au gouvernement et pas à n'importe quel poste. Auparavant, il était ministre des Affaires étrangères et là, il rentre au gouvernement sur le poste de ministre de la Défense. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement grave et d'extrêmement préoccupant parce que avec lui, on peut s'attendre à des choses graves.
Oui, alors que déjà, on a signalé que l'armée palestinienne...
L'armée israélienne,
poursuivait les journalistes. Il y a eu une protestation des syndicats de journalistes français qui sont membres de la Fédération internationale des journalistes, qui alertent sur la situation extrêmement préoccupante.
Oui.
Les journalistes palestiniens.
Oui, les journalistes sont arrêtés, sont visés par des tirs de l'armée. Et la situation des journalistes... Effectivement, il y a eu une prise de position du syndicat national des journalistes français avec cette lettre à Manuel Valls demandant d'intervenir. Lieberman, c'est quelqu'un qui est dangereux, comme on vient de le dire, et qui n'est pas le seul d'ailleurs personnage dans le gouvernement Netanyahou actuel. Il est sur le poste très important de la défense, et il y avait déjà la ministre de la justice qui s'appelle Ayelet Shaked, qui est qui fait partie d'un parti, le foyer juif, de même que Naftali Bennett, qui représente les colons, et qui sont tous les deux des extrémistes, Ayelet Shaked est très haineuse vis-à-vis des Arabes, vis-à-vis de la gauche, vis-à-vis... Elle est en charge de la justice alors qu'elle a pour projet de diminuer les pouvoirs de la Cour de justice, qui, est tout en étant pas toujours favorable aux Palestiniens, et quand même, c'est une Cour de justice. Et voilà, donc on a nommé à la justice quelqu'un qui va faire des dégâts et qui en fait effectivement... Voilà, donc c'est très très préoccupant, et actuellement il y a eu le ministre Ayalon a été démissionné après avoir soutenu l'intervention du général Golan, qui a fait prononcer un discours, qui est un général de l'armée israélienne, qui a prononcé un discours pas très virulent, mais dans lequel il exprimait son inquiétude sur le fait que dans ce qui se passe en Israël, il y a des choses qui lui rappellent ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 1930. Et ça a provoqué un grand scandale, et le fait que Ayalon a soutenu le général Golan a sans doute été un peu à l'origine du fait qu'il a été renvoyé. Donc cette réflexion de disant qu'il y avait des choses qui sont préoccupantes, le mépris des droits de l'homme, enfin, des Palestiniens surtout. Il y a eu l'assassinat d'un jeune Palestinien qui avait attaqué avec un couteau des soldats, mais qui avait été maîtrisé, qui était par terre blessé, et le soldat Azarias, ça c'est une vidéo qui a beaucoup circulé, qui a fait scandale, un soldat israélien lui a tiré dessus alors qu'il était à terre, qui était désarmé et totalement inoffensif. Alors ça a provoqué un tollé parce que au niveau international cette vidéo a circulé, et pour dire ce qu'il en est de Lieberman, il y a eu un procès, mais l'armée a quand même tenu bon, et le soldat Azaria a été arrêté, et il y a eu un procès. Et Lieberman est intervenu et s'est présenté dans la salle du procès pour le soutenir ouvertement. Donc, voilà.
Oui, ça dénote le personnage. Hein.
Voilà.
La colonisation continue, la destruction des maisons aussi.
Oui. Oui, oui, de toute façon, le programme de ce nouveau gouvernement, ce sont des extrémistes pour qui les Palestiniens doivent être chassés, tués éventuellement, mais surtout qu'il n'y a aucun espoir avec ce gouvernement d'aller vers un règlement. Alors, à ce sujet, la France a pris une initiative récemment, bien que je crois que c'était Fabius qui avait préparé au départ, et puis le travail a été poursuivi par Jean-Marc Ayrault, qui lui a succédé. Donc la France a pris une initiative, l'initiative d'une conférence internationale qui se réunirait à Paris. Alors c'est une initiative qui consisterait à faire deux réunions internationales, une première réunion pour préparer la seconde, une réunion qui devait se tenir en mai mais qui finalement se tiendra normalement le 3 juin, en invitant des ministres, les ministres des Affaires étrangères de 20 pays, des représentants de l'ONU, les pays du quartet y sont déjà prévus. Et dans un premier temps, cette réunion aboutira à préparer des dossiers, à préparer des documents sur les grands dossiers, c'est-à-dire la colonisation, les droits des réfugiés, enfin les grandes, la ville de Jérusalem, qui est le point
le
crucial.
Statut, oui. De la ville.
Et donc, ces dossiers seraient préparés sans l'intervention d'Israéliens ni de Palestiniens, donc par des négociateurs censés être neutres. Et ensuite, ça déboucherait sur une réunion dans quelques mois après, où on inviterait les Palestiniens et les Israéliens. Donc, qui serait face à face, là, avec le soutien du travail qui a été préparé et avec un comité de négociateurs qui serait là comme médiateur, si on peut dire. Donc, cette initiative a été présentée par Manuel Valls, qui a fait un voyage, là, ces derniers jours, en Israël. Alors, il a été très mal reçu, de façon d'ailleurs très peu diplomatique. Netanyahou l'a envoyé promener, a dit qu'ils n'étaient pas intéressés, que lui, ce qu'il voulait, c'est être face à face avec Mahmoud Abbas. Donc, c'est-à-dire, toujours dans le même cas de figure, où l'occupant est face à face avec l'occupé, l'occupant qui a une armée, qui a un État, qui a tous les moyens... liés à l'État et l'occupé qui est démuni, qui n'a aucun moyen de défense. Voilà. Donc ça a été la réponse de Netanyahou.
Mais alors cette initiative pour la paix au Proche-Orient, donc c'est vendredi que ça va se déboucher.
Normalement, oui. Alors il doit y avoir les États-Unis.
John Kerry se déplace
voilà,
pour ça.
John Kerry se déplace pour ça. Les Russes sont censés y être aussi, évidemment. Je ne sais plus s'ils ont donné leur accord, mais comme c'est quelque chose d'assez important, je pense qu'ils viendront quand même. Et donc, cette première réunion va se tenir, mais disons que ce n'est pas très bien parti. De toute façon, le refus d'Israël était évident, puisque c'est la politique depuis 70 ans du refus de négocier sérieusement.
Oui, alors on va avoir bien sûr cette initiative. D'autre part, il y a eu aussi des choses positives qui se sont passées ces derniers temps, puisque le réalisateur britannique Ken Loach a réaffirmé son soutien à la Palestine en appelant à boycotter l'État d'Israël à l'occasion de la soirée de lancement du festival Ciné-Palestine qui s'est passé à l'Institut du Monde Arabe à Paris le 23 mai.
Oui.
Donc cela apporte du moulin à toutes les organisations qui se sont déjà adressés justement, il y a eu en Europe 354 organisations de droits de l'homme, des associations religieuses, des syndicats, des partis politiques, qui ont demandé à l'Union européenne de défendre leurs droits au boycott des investissements sanctions. Oui. Alors il faut dire qu'en ce moment, en France, il y a justement beaucoup de difficultés à mener cette action.
Oui, alors le mouvement BDS, boycott des investissements, boycott par les particuliers des produits israéliens, des investissements, ça concerne les entreprises, on demande aux entreprises de ne pas investir en Israël, et sanctions, le S de sanctions, ça concerne les États, que la communauté internationale prennent des sanctions par rapport aux violations flagrantes
des droits de l'homme,
des conventions de Genève, des droits de l'homme, du droit du peuple palestinien à être respecté. Donc, le mouvement BDS a été lancé en 2005 par la société civile palestinienne devant l'inaction des États et devant leur complicité, on peut dire, voilà. Alors c'est un mouvement qui au départ, certains étaient sceptiques quant à son efficacité, mais en réalité, le mouvement a pris de l'ampleur et obtient des résultats. Par exemple, en France, Veolia, qui avait un contrat dans les... Donc c'est un appel qui vise essentiellement à mettre fin à la colonisation en demandant de boycotter les produits qui viennent des colonies, en demandant aux entreprises de ne pas investir dans les colonies. Ce n'est pas un appel qui vise l'État d'Israël en tant que tel, et encore moins les Juifs, ça, contrairement au discours, ça n'a rien d'antisémite. C'est quelque chose qui vise la politique d'un État. Donc, il y a eu des résultats, puisque Veolia, qui investissait dans les colonies, s'en est retiré. Orange, qui travaillait avec une entreprise israélienne dans le domaine des télécommunications, a mis fin à son partenariat. Et l'entreprise SodaStream, qui fabrique les boissons gazeuses ou l'appareil pour les fabriquer, a déménagé son entreprise en Israël et a quitté les colonies. Donc, il y a eu un certain nombre de résultats, mais surtout, ce qui est important dans le boycott, c'est qu'il touche à l'image d'Israël et dans l'opinion publique, et ça, c'est quelque chose... auxquels les États sont très sensibles, le fait d'avoir une mauvaise image. Le boycott en France, depuis Sarkozy et la circulaire Alliot-Marie, il peut être condamné. Et effectivement, il l'a été, et de façon très grave. Il y a des actions de boycott qui avaient été menées à Mulhouse, dont 12 personnes ont été condamnées. Condamnés, ils ont fait appel et la Cour de cassation les a condamnés. Alors que, mais de toute façon, la condamnation par la Cour de cassation ne termine pas le procès, puisqu'on va aller devant la Cour européenne des droits de l'homme, parce que le boycott, c'est tout de même une action pacifique, c'est menée par des citoyens, donc par des gens qui n'ont aucun pouvoir réel, qui, à la base, simplement expriment leur solidarité en demandant la condamnation en vue de mettre fin à une politique d'oppression. Donc, c'est tout de même pas, ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme. Et donc, il y a des résultats, et voilà.
Ça s'étend, c'est international.
Oui, c'est international. Il y a des fonds de pension américains. Il y a une église américaine, je crois, je me souviens plus laquelle, qui a désinvesti ses investissements dans les colonies. Il y a aussi une entreprise néerlandaise et suédoise aussi qui se sont retirées des colonies. Donc, ça a un effet, et surtout, c'est l'effet par rapport à l'opinion publique qui fait du mal à Israël et contre lequel il se mobilise. Donc, le gouvernement Netanyahou a formulé des menaces, y compris d'assassinats ciblés. Alors, je ne sais plus lequel a dit ça, c'est peut-être Naftali Bennett, d'assassinats ciblés contre des militants qui préconisent le BDS.
Oui, en effet, c'est très grave. Alors, vous avez apporté une musique, c'est le trio...
Le trio Joubran, qu'on a déjà entendu à Montpellier récemment.
Alors, je suis avec Jeannine Robert de l'association France-Palestine Solidarité, association qui agit évidemment pour la solidarité avec le peuple palestinien. Et c'est pour cela que vous êtes investie dans deux soirées qui vont avoir lieu bientôt.
Oh, Oui, donc à Montpellier, le mardi 7 juin au cinéma Diagonale, nous avons prévu une séance du film Jérusalem, The East Side Story de Mohamed Alattar. C'est un film qui date de 2008 et qui décrit le processus de confiscation, de destruction de la Jérusalem palestinienne par les Israéliens.
Voilà, le débat est animé par votre association.
Voilà, le débat est animé par la FPS. Et le deuxième film est prévu le jeudi 9 juin au cinéma Utopia à 20h et s'intitule Au pied du mur. Alors, c'est un film de Gilles Cor, qui est français, et qui s'est intéressé aux chrétiens de Palestine, dont on ne parle pas beaucoup, mais la communauté chrétienne, déjà la Palestine a été le premier pays christianisé au monde. Et donc, il y a encore une communauté chrétienne, mais qui se réduit suite à la politique israélienne de dépossession et d'expulsion, si possible, de la population non-juive, donc les musulmans et les chrétiens. Et les chrétiens, beaucoup sont partis aux États-Unis, en Europe, mais un petit nombre continue à essayer de vivre en Palestine et de garder vivante cette communauté chrétienne. Alors, dans le film, nous allons voir des gens qui sont venus à Montpellier. Les Montpellierains pourront retrouver, pour ceux qui les connaissaient, Soua Chehadé, qui est une jeune médecin pédopsychiatre qui a fait ses études à Montpellier et que nous avions invitée à deux reprises, et notamment au mois de décembre dernier, où elle était venue faire un exposé sur la situation médicale en Palestine. Et dans le film, il y a également Inkouri, qui a été la déléguée de Palestine, l'ambassadrice de Palestine à Paris, il y a quelques années, que nous avions invitée aussi. Et on voit également la mère Vera Baboun, qui est chrétienne, Bethléem, ville jumelée avec Montpellier.
Oui, alors effectivement, c'est la chaleur des témoignages, des voix contrastées qui expriment les différences, mais le font en toute tranquillité. Et la bande-son de ce film est aussi superbe, puisqu'on entend des chants religieux ou profanes, des musiques porteuses de toutes les cultures qui traversent cette communauté polyglotte. Et ça contribue à la transmission d'un humanisme profond. Et alors l'auteur d'ailleurs, Gilles Cor, on l'avait déjà rencontré à l'occasion de son film précédent, Cercle de silence.
Ah oui, oui. Mmh. Oui.
C'est le jeudi 9 juin à 20h, en partenariat avec la CIMAD, Réseau Éducation sans frontières et Cercle de silence et l'association France Palestine.
Et la FAPS, oui. Alors, on peut peut-être en revenir sur Jérusalem. Jérusalem,
oui.
Donc on a dit Manuel Valls est allé rencontrer Netanyahou à la fin du mois de mai. Et il a été mal reçu à cause de l'initiative de paix, si on peut dire, de la France, avec les conférences dont on a parlé tout à l'heure. Mais il a été très mal reçu également à cause du vote d'une résolution à l'UNESCO le 14 avril. L'UNESCO a voté à l'unanimité, je crois, ou enfin presque, une résolution qui avait trait au patrimoine culturel palestinien de Jérusalem. Donc, cette résolution a suscité de violentes réactions côté israélien, alors qu'elle disait des choses qui sont parfaitement connues, qui sont connues, qui figurent déjà dans le rapport des consuls en poste à Jérusalem, qui tous les ans font un rapport, qui est d'ailleurs généralement mis de côté et pas repris, où ils témoignent de la dégradation des conditions de vie des Palestiniens de Jérusalem, de la discrimination, la répression qu'ils subissent. Et ce rapport déplorait les destructions de maisons, parce que Jérusalem est une ville que le gouvernement israélien essaie de judaïser au maximum. Et moi-même, qui suis allée en voyage en 2010, on avait rendu visite dans deux quartiers différents à des familles qui avaient été expulsées dans la nuit. On peut venir, vous jeter dehors de votre maison et installer tout de suite un colon juif qui après est là avec des armes. Et voilà. Et puis bon, donc une des familles avait campé un moment sur le trottoir. Toutes ces affaires avaient été jetées, prises dans un camion et jetées dans un parc. Quand ils les ont retrouvées, il manquait beaucoup de choses. Enfin, voilà un peu la façon dont il est procédé. Donc, cette résolution de l'UNESCO déplorait les interventions des colons extrémistes et également de l'armée ou de la police israélienne sur l'esplanade des mosquées, qui est censée être le lieu réservé aux musulmans et où normalement on ne devrait pas. Déjà, on limite l'accès aux musulmans et on laisse passer à certaines occasions ces extrémistes juifs. Elle déplorait également le fait que dans certains cimetières musulmans, il y a des tombes qui sont. On confisque des tombes et on les vide pour y installer de fausses tombes juives, pour montrer où ça va, la politique de dépossession, de négation des droits. Voilà. Donc c'était une résolution qui ne faisait pas allusion, enfin qui faisait allusion à la politique israélienne, mais enfin qui était centrée sur le patrimoine culturel palestinien qui est en péril et que
l'UNESCO voulait défendre.
Et ça a suscité une levée de boucliers et on a assisté à quelque chose d'assez lamentable de la part de la France, mais bon, qui ne nous étonne plus, c'est que les autorités comme Hollande, le président, Manuel Valls, le premier ministre et même Cazeneuve ont regretté cette résolution, ont dit que c'était maladroit, alors que c'est des choses qui sont totalement réelles et qui sont absolument reconnues. Voilà, enfin, la France s'est encore ridiculisée et s'est humiliée devant l'extrémisme du gouvernement israélien, en disant qu'il n'aurait pas fallu voter cette résolution.
Alors justement, la FPS, comme depuis de nombreuses années, a saisi par une lettre les élus et la préfecture du fait que la manifestation qui se prépare pour le 26 juin, c'est-à-dire la journée de Jérusalem à Montpellier, était contraire.
Alors, la journée de Jérusalem a lieu tous les ans à l'initiative du Centre culturel communautaire, culturel juif, et personne leur dénie le droit de fêter Jérusalem s'ils le veulent. Seulement, là où nous formulons des critiques, c'est le fait que c'est une journée qui vise à célébrer Jérusalem réunifiée, Jérusalem capitale d'Israël, alors que Jérusalem n'est pas, contrairement à ce qu'on croit, Jérusalem n'est pas la capitale d'Israël. Jérusalem bénéficiait d'un statut spécial dans les résolutions de l'ONU, dans le plan de partage. Jérusalem, c'est une ville qui devait être partagée, qui est sous statut international, qui devait être partagée entre les trois religions qui revendiquent leur origine ou leur lien avec cette ville. Donc,
Jérusalem
Est est occupée militairement et avec toutes les violations dont on vient de parler. Et c'est absolument anormal que des élus soutiennent par leur présence et par des subventions cette manifestation qui vise à entériner et à célébrer l'annexion de Jérusalem. En plus d'une façon souvent un peu extrémiste, dans une des publications l'année dernière, il était dit, en parlant des Arabes palestiniens, les nazis qui nous assiègent et qui mangent du couscous et parlent arabe. Voilà, c'est la façon de désigner les Palestiniens au cours de cette manifestation.
Voilà, la vision donc colonialiste et contraire au droit international, ainsi que les thèses de l'extrême droite israélienne.
Voilà. Et je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup de temps, je voudrais dire un mot au sujet de Marwan Barghouti. Marwan Barghouti, c'est un député palestinien qui est très connu, qui est en prison depuis 14 ans. C'est quelqu'un qui faisait partie du Fatah et qui aurait pu être le successeur naturel de Yasser Arafat. C'est quelqu'un qui est à la fois combatif, mais en même temps ouvert au dialogue, qui reconnaîtrait l'État d'Israël et qui est en prison donc depuis 14 ans et qui a été proposé récemment par plusieurs, par l'ancien prix Nobel Perel Esquibel, et il a été proposé pour le prix Nobel de la paix. Donc, ce qui doit rendre les Israéliens furieux. Et une chose inquiétante, c'est que depuis vendredi, on lui a fait quitter la prison où il se trouvait, et on ne sait pas exactement où il est. Donc, c'est quelque chose d'assez inquiétant.
Eh bien, merci Janine. Je passe rapidement au calendrier. C'est demain le cercle de silence sur la comédie de 18 à 19 heures. Et les cercles de silence rappellent justement que le défenseur des droits vient de rendre public début mai son rapport sur les droits fondamentaux des étrangers en France. Il fait remarquer qu'il y a beaucoup de barrières qui se dressent entre les étrangers et l'accès à leurs droits en France. Donc, nécessité de participer à ce cercle de silence qui appelle l'attention sur le problème des étrangers en France.
Oui.
Vendredi 3 juin, à l'espace Cap de Ville, à Montpellier, aura lieu la rencontre des acteurs Coopération et Solidarité internationale de Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Toute la journée, donc, c'est bien sûr pour voir comment la coopération au développement peut se dérouler dans notre nouvelle région. Et toutes les associations de solidarité internationale y sont conviées. Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 à La Margelle. La Margelle fête ses 30 ans. Donc il y a tout un programme. Dis-moi où est ta frontière, vendredi 3 juin à 20h30. Avec une conférence de Mohamed Belaldi, qui est psychologue clinicien. Le samedi 4, l'inauguration des festivités avec les autorités civiles à partir de 17h. Ensuite, l'inauguration du four à pain. Bien sûr, dégustation de pain chaud et vin d'honneur. Ensuite, pique-nique tiré du sac. Et à 21h, un spectacle, Salaud de pauvres. Adaptation théâtrale humoristique du livre de ATD Carmonde, En finir avec les idées fausses sur la pauvreté. Quelques-uns des préjugés les plus tenaces sont passés en revue. C'est une représentation suivie d'un échange avec les acteurs. Et dimanche 5 juin, c'est la fête de l'Église protestante unie de Montpellier Agglomération, avec des jeux intergénérationnels, un concert de gospel à 16h, et avec le chœur d'Emmanuel Diop, Job et le chœur de Monteau Vocal pour clôturer les festivités. Enfin, le samedi 4 juin, de 18h à 22h à la salle Jacques Ier d'Aragon, c'est le réseau Éducation sans frontières 34 qui fête ses 10 ans. Le slogan est « Égalité des droits, une école, un toit, des papiers ». C'est dans le cadre du printemps des migrants. Bien sûr, au programme, expositions et ateliers interactifs autour des migrations et des événements qui ont ponctué les 10 ans de RESF. Témoignages de jeunes et de familles, interventions des militants, danse, musique, vidéo, buffet convivial en présence des artistes, écrivains, parrains républicains qui se sont engagés aux côtés de réseau Éducation sans frontières auprès des sans-papiers. Et puis c'est le début, mercredi 1er juin jusqu'au dimanche 19 juin, de Escale latino-américaine, le cycle de cinéma d'Amérique latine et des Caraïbes, au cinéma Diagonale, organisé par le collectif ALBA. À bientôt, chers auditeurs. Merci, Jeannine Robert.
Oui, si je peux ajouter, ce soir, au Diagonale, vous avez La Tourmente grecque de Philippe Menu à 19h45.